Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, votre cocktail info et humour de l'après-midi. Cocktail d'habitude, je crois, assez équilibré, sauf hier. Car oui, si d'habitude on arrive à allier dans cette émission gaudrioles, potaches et analyses éclairées sur la situation géopolitique mondiale, hier avec Elise et Moon, on va pas se mentir, il y a eu assez peu de moments dédiés à l'analyse de la situation géopolitique mondiale.
On a fait un sketch en fait de deux acteurs porno qui se réjouissent du déconfinement. On pleurait de rire parce qu'on essayait de trouver des
noms.
Faites entrer l'enculé par exemple, qui veut gagner des oignons. Plus belle la bite.
Oui, hier le rimen a coulé. Eva Rock, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ris encore de réentendre le passage.
Mais il faut qu'on se gendarme depuis qu'on est tous les deux en studio, qu'on est revenus.
On devient fou en fait.
On est souvent en roue libre, et plus que jamais. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas franchir la petite ligne rouge. Vous nous direz tout à l'heure, Eva, ce qu'on regarde à la télé sur les écrans.
Oui, tout à fait, avec notamment un coup de cœur et pour les enfants et pour les grands.
Mais d'abord, vu qu'on ne peut toujours pas les accueillir en studio, on prend des nouvelles des personnalités qu'on aime par téléphone. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Imani qui est en ligne avec nous. Bonjour Imani.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Imani, on va pas s'étendre trop longtemps sur la période étrange qu'on a vécue et qu'on vit toujours, mais quand on est maman, comme vous, de deux petits, j'imagine que ces dernières semaines ont dû être assez éprouvantes. Qu'est-ce qui est le plus fatigant finalement, la vie de tournée ou la vie de maman confinée?
Je crois que c'est la vie de maman confinée, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce qu'en tournée, on est quand même bien sous-souté, on a un régisseur, on a toute une équipe qui est là à dire « Imani, je peux faire quelque chose pour toi ?» Voilà. Et même à la fin, c'est un peu agaçant. On dit « Non mais ça va, je peux quand même lasser mes chaussures toutes seules. » Mais là, c'est pas du tout ça. Déjà, personne ne te demande comment tu vas. C'est tout de suite « J'ai faim, qu'est-ce que tu m'as servi, c'est pas bon. »
C'est vous qui devenez régisseur en fait.
Eh oui.
En fait, en confinement.
Ouais, ça c'est sûr.
Imani, vous allez nous raconter comment vous avez vécu ce confinement, vos projets en cours aussi. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier est de retour après de belles vacances au bord de la mer.
Vacances qui,
on l'espère, lui auront fait du bien. Il était au bord du burn-out la dernière fois qu'on l'a vu.
Bonjour Mathieu Béliard. N'importe quoi, ça commence bien, voyez la fatigue. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Mathieu Noël Béliard. Tous les Mathieu de l'antenne et tous nos auditeurs s'appelant Mathieu.
Les autres, tant pis pour eux.
Tant pis pour les autres. Vous êtes le chef du service éco d'Europe 1, toujours. Vous n'avez pas sauté pendant le confinement.
Non.
Un service réputé pour son optimisme, puisque votre collègue Axel de Tarlet nous l'annonçait hier encore.
On va tous crever, tous les atouts de la France partent en fumée.
Et cet après-midi, Emmanuel, vous remettez une pièce dans le flipper de l'anxiété en nous annonçant rien moins qu'une catastrophe pour le secteur automobile.
Oui, et je vais partir d'un exemple, celui des loueurs de voitures. On n'y pense pas beaucoup, mais ce sont eux les plus gros acheteurs de voitures. Je vais vous donner par exemple tout à l'heure l'exemple d'Europcar. C'est l'entreprise qui achète le plus de voitures à tous les constructeurs en Europe. Vous avez quelques minutes pour réfléchir et imaginer combien de voitures ils achètent par an en Europe.
On va faire un petit pari.
Ah non, on est nul.
Celui qui aura le chiffre le plus proche aura gagné quoi?
Une bière.
Une bière.
D'accord.
Alors, je vous reconnais bien.
Voilà.
Face à vous, Emmanuel, une passionnariat écologiste qui jubile à l'idée que l'industrie automobile se casse la gueule. La Greta Thunberg d'ici les Moulineaux. J'ai nommé Anne Le Gall. Bonjour Anne.
Bonjour Mathieu.
Ça lui
Noël.
Va bien ça, la Greta Thunberg d'ici les Moulineaux. Bien ça.
Vous êtes l'expert environnement d'Europe 1 et aujourd'hui vous posez cette question, que dis-je, la question, la seule qui vaille, la seule qui compte par les temps qui courent, l'avenir est-il au vélo en bambou? C'est vraiment votre question du jour, Anne. Hein,
absolument. Mais sérieusement, parce qu'on n'arrête pas de lire des articles sur le succès des vélos électriques, des vélos pliables, des vélos cargo, des vélos sur mesure. Et alors, je suis tombée sur un sujet évoquant les vélos en bambou. Ça m'a intriguée. J'ai donc appelé un fabricant pour en savoir plus. Et vous allez voir que le vélo en bambou, c'est écolo et confortable. Et on peut même le fabriquer soi-même.
Le fabriquer soi-même?
Alors non, je ne vais pas tester ça. Je vais en acheter un.
Mais il vaut mieux pas que je le fabrique moi-même. Merci Anne Le Gall, le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Imani qui nous fait l'honneur de passer un moment avec nous cet après-midi. Imani, vous avez dit il y a quelques années maintenant, sur scène, je me sens en vie, mais surtout je me sens à ma place. Je comprends pourquoi certains voudraient y mourir, c'est un lieu où l'amour est instantané. Vous devez être vraiment en manque en ce moment, Imani.
En fait, je pense que le manque, c'est aussi des choses qu'on ressent quand on n'a rien à faire. Mais c'est pas du tout mon cas. Donc quand on est hyper occupé du matin au soir avec la famille, les projets, etc., on n'a pas le temps d'être en manque parce qu'en fait l'esprit et le corps, il est toujours occupé. Je pense que souvent le manque, c'est quand on n'a rien de mieux à faire, donc on y pense tout le temps et ça devient une obsession. Et je dois avouer que c'est quand même pas mon cas.
Alors ce projet, Imani, vous nous en parliez, je crois, au début de l'année, vous êtes venu nous voir en studio, nous parliez de reprises de chansons pop réécrites, arrangées au violoncelle. Est-ce que c'est là-dessus que vous avancez en ce moment ?
Exactement, c'est un projet de 8 violoncelles, c'est un octeur de violoncelle avec une voix seulement. Pas d'autres instruments, pas d'artifice, pas de looper électronique, pas de DJ, pas de trucs comme ça. Et on essaye, enfin j'essaye d'arranger des grosses chansons connues de la pop et avec les violoncelles et leur donner une nouvelle lecture, un nouvel habillage. Et c'est passionnant vraiment.
Eva,
est-ce que vous avez quelques exemples de chansons que vous êtes en train d'arranger ou c'est top secret pour l'instant ?
Bah, c'est pas top secret, mais comme on est dans le répertoire, mais ça va de Bonnie Tyler à Bob Marley, ça va Osier, on a fait Madonna, vraiment, je m'amuse quoi.
Est-ce qu'il y aura Creep ? La dernière fois, vous nous avez fait Creep a cappella.
Ah oui, c'était bien.
Oui, normalement, il y aura Creep.
Ah bah voilà, c'est une raison de plus pour y aller au spectacle.
C'est clair.
Et puis, il va y avoir de la chorégraphie, il y a une mise en scène. La mise en scène, elle est de Masha Makaïef. J'avais vraiment envie de prendre un risque, d'aller plus loin que juste monter sur scène et chanter devant un groupe de musiciens, ce qui en soi est déjà beaucoup. Mais j'ai fait ça, j'ai fait, je sais pas, des milliers de dates maintenant, et j'avais envie de proposer autre chose et surtout d'avoir envie de me mettre en danger moi. Donc j'ai aucun repère dans ce projet et ça fait à la fois peur et à la fois c'est excitant comme un enfant quoi. Je trouve ça.
Imani, vous aviez commencé ce projet donc avant le confinement hein, puisque on avait parlé déjà dans ce studio. Est-ce que le confinement a modifié quelque peu la nature du projet ? Est-ce que vous l'avez adapté parce que vous êtes inspiré par d'autres choses qui font que qui sont indues à ce confinement ?
Pas tellement. Par contre, ce que le confinement a apporté, c'est que du coup, pendant 2 mois, je n'étais pas du tout dessus. Enfin, si, j'étais un tout petit peu, mais peut-être 2 heures par jour, parce que le reste du temps, il fallait gérer la maison. Ouais. J'ai pu peut-être avoir plus de recul sur la mise en scène, sur les erreurs, les choses que j'étais en train de faire. Mais par contre, ça m'a manqué de ne pas être dans la musique tous les jours, alors qu'on était quasiment tout le temps en studio. Et là, on a repris. Et au début, on était quand même très rouillé, quoi. On s'est rien dit. Et en fait, 2 mois, ça suffit pour se remettre en question et se demander si on n'est pas en train de faire n'importe quoi, quoi. Donc, c'est vrai que le confinement, ça a été un peu bizarre pour ça.
La voix magique d'Imani est un octueur de violoncelle. Ça sent les 3 T dans Télérama. Déjà d'avance,
clairement.
Je vous l'annonce. Imani fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1.
C'est un des grands gagnants de la crise, le vélo. C'est d'ailleurs peut-être le moment d'en changer. La nouveauté dont tous les gens soucieux d'environnement parlent, c'est le vélo en bambou. Alors évidemment, il va falloir le monter vous-même, mais je sais que vous êtes fort en bricolage.
Si vous pouviez faire levier sur le boîtier, je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt.
Ah non. Oh putain,
mais
t'as mis la salope.
Mais il fallait attendre qu'Anne Le Gall vous donne le mode d'emploi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Anne Le Gall, notre expert environnement, qui n'a qu'un seul défaut, Eva. Comme toutes les utopistes écolos amatrices de jus détox au fenouil issus de leur propre potager bio, elle est trop gentille, trop tendre. Ça s'est encore senti vendredi dernier au moment du quitte au double, cette ultime séquence de l'émission où chaque journaliste a 10 secondes pour faire pencher la balance en sa faveur.
Parce qu'on s'est émerveillé. Pardon, je perds ma voix.
Vous allez vous faire tester, puis on reviendra vers vous ensuite.
Non, pardon, je termine.
Ah, vous voulez terminer ? Alors allez-y.
Retrouvons la forêt avec délicatesse. Entendons cet appel de la forêt.
Ça aurait été dommage de ne pas finir, effectivement. Oui, non, bon, à votre point fort, on va dire, ça reste la chronique elle-même, hein, plus que le kit de
double. Toujours retomber sur ses pattes.
Aujourd'hui, vous allez tenter de me convaincre d'acheter un vélo en bambou. Et je vous le dis, Anne, c'est pas gagné.
Mais alors, imaginez, Mathieu, un vélo de course, un VTT ou un vélo de ville dont le cadre est un assemblage de gros tubes en bambou. Ça paraît improbable, c'est vrai comme ça. Mais les cyclistes professionnels qui l'ont essayé assurent que le bambou est un matériau écolo et tout aussi performant que la fibre de carbone. D'ailleurs, en France, il y a plusieurs fabricants qui se sont lancés sur le créneau, même si ça se compte encore sur les doigts de la main. On peut citer Cyclic à Lyon, Inbo dans les Vosges, Braise Bamboo Bike en Bretagne, ou encore l'atelier d'Ernest à Nantes. Et alors justement, j'ai contacté Louison Carpentier et Valentin Diot, qui sont les deux jeunes patrons de l'atelier d'Ernest à Nantes. Eux-mêmes circulent presque tout le temps avec leur vélo en bambou. Et Louison m'a expliqué que c'était un vélo à la fois hyper solide et confortable.
Le bambou, il est utilisé principalement, comme vous devez savoir, dans les pays asiatiques pour fabriquer des échafaudages sur 60-70 étages. Donc là, tout de suite, on se rend compte de l'importance des caractéristiques du bambou. Et si je prends l'exemple du carbone, c'est un matériau qui est très raide, où on ressent vraiment toutes les imperfections qu'on peut avoir sur la route. Contrairement au bambou que nous, on utilise, c'est un matériau qui est vivant comme le bois et qui est capable de filtrer toutes ces vibrations, de se déformer très loin sans jamais casser.
Mais alors, c'est fou parce que pourquoi on n'y a pas pensé avant, finalement? Moi, je m'en foutais de votre gueule avec vélo en bambou, mais si absorbe effectivement mieux les chocs,
notamment,
c'est quand même dingue que tous les vélos soient pas en bambou.
Absolument.
On peut le laisser dehors sous la pluie?
Alors oui, Mathieu, vous pouvez le laisser sous la pluie, vous pouvez rouler dans la boue avec, sans aucun problème.
Ça tombe bien, parce j'adore rouler dans la boue. C'est vraiment un
ça
truc
m'étonne
que
pas.
Je me dis, tiens, et si j'allais un peu rouler dans la boue, ça me fait du bien. Ouais.
C'est tellement vous. Alors, c'est pas...
En même temps, restant à 100 km de Paris, il va falloir qu'on s'y habitue. Quoi,
oui, c'est vrai.
On est obligé.
On va y prendre, je suis sûr, beaucoup de plaisir.
Non, mais vous pouvez effectivement le laisser sous la pluie parce qu'en plus de sa résistance naturelle, il est recouvert de 7 à 8 couches d'un vernis de finition qui le protège parfaitement. Et alors, sachez qu'à l'atelier d'Ernest, il est même possible de fabriquer soi-même son cadre de vélo en bambou. Donc, pas besoin d'être un grand bricoleur. Vous allez apprendre à préparer les tubes, à les poncer, à les assembler. Et en une seule semaine, vous pourrez fabriquer comme ça votre cadre de vélo personnalisé sur mesure. Bon, ça vaut 1000 à 1500 euros.
Ah, c'est là que le bas blesse, ma chère Anne, parce que j'aime rouler dans la boue, autant je suis un peu radin. Vous le savez, c'est cher quand même, hein, 1500 euros.
C'est vrai que c'est pas le vélo qu'on achète pour sortir comme ça une demi-heure par mois. Ce sont vraiment des vélos pour passionnés, des gens qui en font un usage régulier. Ce sont des vélos sur mesure, avec des pièces uniques. Ils sont techniques, ils sont écolo, parce que même les jointures du cadre sont réalisées avec un mélange de lin et de résine. Alors, ce qui fait le prix, c'est parce qu'on ne peut pas assembler ces vélos avec des robots. Donc, la production restera de toute façon artisanale. Donc, c'est pour ça que les prix démarrent à 1000, 1500 euros quand on le fabrique soi-même. Il faut compter 2500 euros pour un premier prix, pour un vélo tout fait. Et le prix moyen, c'est plutôt 4-5 000 euros.
C'est la Rolls du vélo, votre truc.
C'est la Rolls du vélo. Mais alors, il y a une astuce, vous pouvez même commander pour 800 $ un kit de fabrication de ce vélo en bambou sur internet auprès de la société américaine Calfi, ça s'écrit C-A-L-F-2-E, et c'est Valentin Diot, donc l'un des deux start-upers nantais, qui a dessiné ce kit lors d'un stage d'études dans cette société américaine il y a quelques années.
Est-ce qu'on peut mettre une batterie électrique dessus?
Absolument, Eva. Mais oui, on peut l'électrifier, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'on peut mettre un moteur 500 cm3 histoire d'être sûr d'être vraiment le premier au démarrage et de planter tout le monde avec. C'est possible.
Le vélo, il fait déjà 8 kilos, donc si on le charge trop, après, ça devient compliqué.
Oui, mais il avancera plus vite. Hein. Si vous mettez un bon moteur dessus, la structure de bambou est assez légère.
Un Solex en bambou, quoi.
Et ils ont d'autres idées, vos jeunes diplômés de l'école supérieure du bois?
Voilà, il y a un truc qui n'a rien à voir avec le vélo qu'ils viennent de mettre sur le marché. Je vous en parle parce que je suis sûre qu'on va en réentendre parler. C'est un gros couteau suisse avec... Donc, on est entre le couteau suisse et le décapsuleur. C'est soit en bois, soit en inox. Et c'est un ustensile qui a été créé pendant cette pandémie du Covid-19 parce que ça permet d'ouvrir les portes, d'appuyer sur les boutons de la machine à café avec cet objet. Donc, on peut appuyer sur les boutons d'ascenseur, taper au clavier, pousser un caddie sans toucher l'objet avec ses mains. Ça coûte entre 9 et 18 euros. Les ventes ont démarré depuis une semaine et déjà la start-up cartonne.
Et comment on trouve cet objet? Comment ça s'appelle?
Alors, ça s'appelle le sachet. Parce que Sacha, ça veut dire protection de l'homme dans je ne sais plus quelle langue. Et on trouve ça sur Internet. Donc vous allez sur l'atelier d'Ernest.
L'atelier d'Ernest, ok.
Et
on trouve cet objet miraculeux.
Vous allez trouver ce Sacha, donc, qui est un assistant anti-Covid.
Vous pourriez en offrir à toute l'équipe, Mathieu.
Ah, j'ai cru que vous disiez à Anne.
Non,
c'est moi qui dois.
Mais
c'est
Mathieu,
le budget à moi.
C'est Mathieu le patron.
C'est vous le patron,
C'est moi le patron, mais souvenez-vous que je suis radin. Merci Anne Le Gall et Emmanuel Dutheil. J'imagine que cette chronique sur le vélo en bambou vous a passionné.
Ça m'émoustille totalement. Là, vous imaginez pas.
Ne soyez pas mauvais esprit, c'était intéressant. Distanciation sociale oblige, chaque jour c'est désormais par téléphone que nous prenons des nouvelles des stars. Des stars qui parfois, comme Elise Mounière, disposent d'une maison avec jardin et qui parfois, comme Elise Moon, commencent à trouver la solitude pesante à l'issue de ces deux mois de confinement.
Ouais, il faut sortir, il faut que je couche avec quelqu'un parce que là, c'est pas possible. Les plantes, vous savez, ça va 5 minutes.
Hein. Imani a-t-elle un jardin ? On lui posera la question.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans oublier d'en rire, 2 heures également pour apprendre à mieux connaître une personnalité. Aujourd'hui, une artiste qui a accepté d'être avec nous en ligne car elle avait été bluffée par mon interview la dernière fois.
Oula.
Une interview qui avait été énormément bossée en amont et ça s'était bien senti. Et j'avais été aussi assez soutenu par mon camarade Patrick Cohen.
Une seule corde manque à votre arc. Une comédie musicale. Vous qui adoriez les comédies musicales quand vous étiez petite.
C'est pas vrai. J'aime pas du tout. On est dans une histoire, puis finalement, il y a un mec qui se met à chanter. Ça me gonfle un peu. J'aime pas trop la comédie musicale. Vraiment.
Vous avez des projets musicaux?
J'ai des projets musicaux, mais pas du tout de comédie musicale. Oui, j'écris un spectacle.
Qu'est-ce qu'il y a, Patrick?
Pourquoi vous riez, Patrick?
Non, parce que vous insistez.
Imani, merci d'être là quand même.
Voilà.
Malgré nos errements sur la comédie musicale, la dernière fois, on n'avait pas compris la différence entre une comédie musicale et un nocturne à cordes de violoncelle. La même chose exactement. Alors, on a parlé de ce spectacle en préparation. Il y a quelques jours, vous avez posté sur Instagram la photo de votre premier album, The Shape of a Broken Heart, album sorti il y a 9 ans déjà. Parfois, on a le sentiment que vous avez du mal à réaliser votre succès. Vous dites, j'ai du mal à croire que c'est ma vie. Est-ce qu'une période comme le confinement, c'est le moment de justement de prendre du recul et de réaliser que oui, c'est votre vie. Oui, vous êtes une star.
En fait, pas du tout.
Pas du tout.
Ce qui est génial avec le confinement, c'est que ça m'a bien ramené sur Terre. J'étais déjà en train de prendre la grosse tête et m'envoler. Là, le confinement, ça m'a remis dans la réalité, dans la vie. C'était génial. Le confinement, non. Là où, par exemple, j'avais une nounou qui m'aidait avec le gamin, et de temps en temps, voilà, elle fait le ménage, là, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était génial, parce que je me suis rappelé ce que c'était que de se lever tôt, récurer son four. Donc, le confinement, ça m'a aidé à me recentrer sur la vie de famille. C'est des banalités, ce que je veux dire, mais en fait, on travaille comme des fous. On est plus dans le management de la maison. De la maison. Alors il faut qu'il se lève, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il se dépêche, à manger. Et en fait, finalement, on ne se fréquente plus. Même avec mon mari, c'est compliqué, on croisait. Et donc, le confinement, ça nous a un peu forcé à nous regarder, à nous dire, mais en fait, on vit un peu comme des cons. Donc, c'était bien cette petite mise au point.
Imani, ce que vous venez de dire me parle tellement d'un point de vue personnel, je ne peux même pas vous dire à quel point. Mais moi, c'est grâce à la serpillière.
J'ai
des très belles photos de moi.
D'accord.
En train de prendre la serpillière. Imani, vous êtes une artiste engagée. On sait que vous êtes notamment l'ambassadrice d'Endomind, l'association française d'action pour l'endométriose. Et récemment, comme 200 personnalités, vous avez répondu à un appel lancé par Juliette Binoche et l'astrophysicien français Aurélien Barraud pour une transformation radicale de la société après la pandémie. Le collectif écrit notamment « Il nous semble inenvisageable de revenir à la normale ». Comment on va faire pour ne pas revenir à la normale? Et est-ce que vous êtes confiante,
optimiste
de ce côté-là?
Je suis consciente qu'on va pas, il faut faire un effort collectif pour parvenir à la normale. Maintenant, quand je vois que les gens font la queue pendant 2 heures pour aller chez Zara le premier jour du déconfinement, j'ai quand même du mal à croire qu'on va y arriver comme ça. Je pense qu'il faut légiférer. Je pense qu'il faut que les gouvernements, enfin, on peut. Je pense qu'il faut déjà faire le changement à l'intérieur de soi, dans sa tête. Ça, c'est sûr. Même moi, personnellement, j'essaie d'apporter des changements dans la manière dont je gère ma vie, ma famille, ma carrière, ma vie. Mais il faut essayer de l'appliquer un peu aux autres. Mais en vérité, s'il n'y a pas des lois qui nous forcent peut-être à consommer moins, à travailler moins, ou à consommer mieux, ça va être des changements très, très, très lents. Parce qu'on a été confinés 2 mois, pas 2 ans. Donc, en gros, on a pris des vacances forcées. Très très forcé pour beaucoup. Je pense qu'il va y avoir plein de résolutions d'ivrogne, comme on dit, où on se dit, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, mais après la vie, si elle reste la même, c'est-à-dire ce rouleau compresseur qui nous force à travailler comme des dingues, parce qu'il faut payer des factures, parce qu'il faut consommer, parce qu'il faut acheter, parce que, je sais pas si on va y arriver. Je pense que ce sera encore pire, ce sera une gueule de bois violente, quoi.
Et est-ce que vous êtes inquiète pour le secteur de la culture, pour la reprise des concerts? Est-ce que le gouvernement va suffisamment soutenir les artistes au moment de la reprise? Est-ce que vous vous en souciez au quotidien? Vous êtes en contact avec, je ne sais pas, des gens, le gouvernement?
Je suis en contact avec personne au gouvernement, mais par contre, oui, je m'inquiète pour la culture en général, je m'inquiète pour les gens, pour les jeunes, parce que de toute façon, quand il y a des crises, c'est toujours la culture qui morce en premier, parce qu'on nous dit que c'est pas tellement utile, c'est moins utile que manger, quelque part, ils ont raison, mais en même temps, on voit bien que la culture, ça touche les gens, dès qu'il y a une je sais pas moi, vous voyez par exemple la mort de Johnny Hallyday, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il est mort, ça a touché, ça a affecté tellement de gens qu'on s'aperçoit bien que la musique, la culture, c'est très important pour les gens. C'est peut-être pas aussi important que boire et manger, mais c'est pas loin derrière. Et donc, il faut qu'effectivement, un, le gouvernement tienne ses promesses, et deux, si on va changer la politique écologique, économique, ben, il faut inclure la culture là-dedans. Et il faut que c'est une place prédominante dans la vie des gens, parce que c'est important. Et d'ailleurs, en temps de guerre, ou quand vous rentrez dans des régimes de dictature, la culture, c'est la première chose qu'on veut modifier, parce qu'on sait que ça a un véritable impact sur la manière de penser des gens.
Oui, ça a un impact aussi économique, parce qu'on sait que grand nombre de manifestations culturelles soutiennent aussi le tourisme, des villes, etc.
Exactement.
Donc il ne faut pas s'arrêter à simplement le confort de quelques artistes sur scène ou au cinéma. Quoi. Ça touche énormément de gens. Voilà.
Oui, en plus en France, par exemple, la France, on est le pays qui a le plus de festivals.
Exactement,
crois,
exactement.
Et on est vraiment gâtés, donc il y a des très très gros festivals, et puis il y a des tout petits dont on n'entend pas parler, mais quand même qui soutiennent l'économie locale pendant 6 mois, tu vois, un été. Et ça aussi, faut pas les oublier. Et il y a tout le monde. C'est vrai qu'il y a les artistes, mais il y a les techniciens. Je veux dire, les artistes, ils peuvent monter sur scène. S'il n'y a pas le technicien pour brancher le micro, il ne peut pas faire son boulot.
Ouais.
Donc il y a toute la chaîne alimentaire comme ça de la culture à laquelle il faut penser. Et moi, je pense qu'il faut penser tout de suite les dommages. Est-ce qu'on va réouvrir les salles? Comment on va réouvrir les salles? Mais après, il faut penser aussi à l'image globale de qu'est-ce qu'on a fait de la culture aujourd'hui. C'est quoi sa place?
Imani, j'étais en train de repenser à votre projet avec les reprises, les violoncelles, et je me dis qu'il y a peut-être un titre qui manque. On n'a pas la liste intégrale des titres que vous allez reprendre, mais il y a peut-être un titre qui manque.
elle rit déjà parce qu'elle sent la connerie que vous allez dire.
Dans une interview de Télérama l'année dernière, vous disiez que votre chanson d'enfance préférée, c'était Big Bisou de Carlos. Est-ce que vous confirmez déjà cette déclaration, et est-ce que vous confirmez que Big Bisou ne sera pas interprété au violoncelle dans votre prochain spectacle?
Écoutez, ne me challengez pas, parce que je peux peut-être réfléchir à faire Big Bisou ou au moins un clin d'œil, mais oui, quand j'étais petite, attendez, elle était super cette chanson, elle venait avec une chorégraphie, et moi j'ai grandi avec une tribu de frères et sœurs, et donc nous on était là et on faisait Big Bisou sur la main, sur le front, tout ça.
Vous n'allez pas en revenir, Imani, de ce qu'on va vous raconter.
Ah ben, oui, figurez-vous qu'on parlait de Big Bisou le jour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que lui c'est pas sa chanson d'enfance préférée, avec Benjamin Biolay. Et Benjamin Biolay nous a promis qu'il reviendrait pour la dernière de l'Équipe Sauvage, nous faire une cover de Big Bisou. Il nous avait donné un petit avant-goût. Bon, alors c'est encore une ébauche. Hein. C'est Benjamin Biolay, mais il peut faire mieux. Mais il va revenir faire une cover de Big Bisou.
Venez avec lui le 5 juillet.
Et faites-nous Big Bisou. Alors là, ça serait assez lunaire, j'imagine, Benjamin Biolay.
Il faut que je l'appelle, il faut qu'on se contacte, il faudrait qu'on fasse une version
Gainsbourgienne. Ah,
ouais.
Ah oui, mais on en rêve.
Une version Gainsbourgienne.
Là, si vous faites un truc un peu Gainsbourg sur Big Bisou.
Nous, on fait les cœurs, si vous voulez.
Non, alors ça, Eva, je vous arrête tout de suite. Si on a Imani et Benjamin Biolay qui prennent Bisou, nous, on ferme notre gueule.
D'accord,
c'est vraiment ce qu'on fera.
Applaudit.
On applaudit. On se contentera d'applaudir pour ne pas gâcher ce moment de radio. Est-ce que vos enfants, ils chantent, Imani? Est-ce qu'ils vont reprendre le flambeau ou ça ne les intéresse pas du tout?
Alors, je ne sais pas s'ils vont reprendre le flambeau, mais alors ils chantent tout le temps. Ma fille de 14 mois chante joyeux anniversaire en permanence.
Ah, bon, ah oui,
même quand ce n'est pas son anniversaire.
Ah bah non, oui.
D'ailleurs,
quand elle se lève à 3h du matin, elle hurle. La seule chose qui la calme, c'est que je chante joyeux anniversaire dans toutes les langues.
Oh, c'est mignon.
Oh, vous voulez pas nous chanter joyeux anniversaire dans une langue improbable qu'on connaît pas trop?
En comorien, c'est moi, ma wao. Moi, ma wao. Moi, ma wao. Eva. Moi, ma wao.
Oh, c'est génial.
Eva, y a peu de journalistes qui ont eu leur anniversaire chanté comme carrément. Ça par Imani.
Mais c'est marrant parce qu'en vous entendant chanter comme ça, on s'aperçoit qu'il y a c'est un ton un peu d'une berceuse en fait. Joyeux anniversaire.
C'est vrai.
Alors que je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Ouais.
C'est la mélodie la plus efficace du monde.
Ah oui, c'est vrai, on est d'accord.
Eh bien, je me demande qui est-ce qui a les droites là.
Bah, en tout cas, c'est vrai, il doit vivre dans un sacré château à Miami, je pense. En attendant de découvrir votre nouveau spectacle, je conseille à nos auditeurs de se procurer très vite votre album live de Casino de Paris qui lui est disponible.
C'est
merci
génial,
beaucoup, ouais. Imani, d'avoir pris un moment pour être avec nous cet après-midi.
Je vous en prie.
À très bientôt.
Europe 1.
À suivre, comme chaque jour, les nouvelles économiques sont mauvaises. C'est au tour du secteur automobile de plonger tête la première dans la crise. Mais Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1, a choisi de rester optimiste. S'il ne peut pas rassurer les ouvriers qui nous écoutent, ni les salariés, ni même en fait les patrons, il peut au moins rassurer les rentiers qui nous écoutent.
Rassurez-vous, Monaco restera Monaco.
Ah, c'est bien là l'essentiel. C'est donc soulagé que nous écoutons Imani, Hey Little Sister sur Europe 1.
Sister, won't you come and sit down? I feel like talking. Can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I haven't been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister, don't be scared to be yourself. It's the only thing you are, or just about the only thing that you have. When comes our time, mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end, or just a long way till the end. When comes hard times, sister, don't you cry anymore. It's all right, it's all right. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around, so let me speak what's on my mind. When comes our time,
Little Sister, c'était Imani sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Jusqu'à l'arrivée fracassante d'Hélène Cole, il était notre référent, tête couronnée. notre Léon Zitrone svelte. Seulement voilà, il y a deux semaines, alors qu'il barbotait dans un jacuzzi en Vendée, il a manqué de s'étouffer avec un apéricube quand il a entendu sur notre antenne, dans son émission, une journaliste évoquer les tribulations de Ramadis, le roi de Thaïlande. Il était furax, Hélène Cole lui avait piqué son job.
J'ai demandé à Eve Roger qui c'était.
Eh bien, c'est notre correspondante à Berlin, Emmanuel. Et comme vous étiez en vacances, elle s'est permis d'empiéter sur votre territoire.
J'étais pas du tout en vacances. J'étais juste trop occupé à faire autre chose.
Vous étiez à moitié en vacances, Emmanuel.
J'ai jamais autant travaillé qu'en télétravail.
Heureusement, vous avez une autre spécialité que les têtes couronnées, l'économie. Une économie en crise, on le sait partout dans le monde, mais certains secteurs trinquent particulièrement, Emmanuel. C'est le cas de l'automobile.
Oui, alors comme vous le constatez, je mets toutes les chances de mon côté pour l'emporter. Je remplis toutes les cases. Sujet sexy, avec
positif.
Un peu de vrai sexe, d'argent. Sujet super positif, aussi. Comme vous dites. Eh bien, mais je m'en fiche. Moi, j'ai relu le cahier des charges de début de saison. C'était informé tout en étant divertissant.
Certains devraient d'ailleurs le relire.
Alors, voilà. Vous, Mathieu, vous faites le mariole et moi, donc, le sérieux. Donc, le cahier des charges est tenu.
Parfait.
Je viens donc, oui, je le reconnais, avec un sujet ô combien plombant, mais ô combien concernant. Nous sommes face à une crise majeure dans le secteur de l'automobile et j'ai eu envie de vous prendre un exemple, celui des loueurs de voitures. On va prendre le cas d'Europcar, mais ça pourrait généraliser à toute la profession. Europcar, c'est le plus gros acheteur de voitures en Europe. Je vous demandais tout à l'heure, quand on faisait le teasing, si vous aviez une idée de combien ils achètent de voitures en Europe par an.
Moi j'aurais dit 60 000 voitures. Eva.
Mais pour l'ensemble de l'Europe ou pour la France?
Pour l'ensemble de l'Europe.
Pour l'ensemble de l'Europe.
120 000 voitures. Allez, qui dit mieux? 120 000 voitures?
Moi, j'aurais dit le double.
Eh bien, c'est le triple. 340 000 voitures, quasiment le triple. 340 000 voitures achetées l'an dernier par Europcar en Europe. Et là, en raison de la crise qui lamine tout le secteur, ils vont acheter au moins 100 000 voitures de moins cette année. Et ça pourrait être bien pire que cela. Et en plus, vu qu'ils ont un système d'achat-vente d'une certaine manière avec les constructeurs, ils rendent plus vite que prévu les voitures qu'ils avaient déjà achetées. Vous imaginez le cataclysme.
Mais alors, effectivement, c'est un exemple qui parle beaucoup. Le secteur automobile est face à une crise majeure.
Oui, parce que si vous ajoutez tous les professionnels qui vont annuler ou retarder leurs achats en raison de la crise, ça devient énorme. Parce que c'est vrai que quand on parle du marché automobile, on pense à nous, les particuliers. Mais finalement, ce qui permet vraiment aux constructeurs de gagner leur vie, ce sont tous ces professionnels qui changent régulièrement de voiture. Par exemple, chez Renault, c'est un pan énorme du marché. Si la Clio est la voiture la plus vendue en France, c'est pas parce que nous, particuliers, on en achète beaucoup, c'est parce que les entreprises en achètent énormément. Et par ailleurs, nous-mêmes, particuliers, on va pas aller acheter une voiture tout de suite. Tous ceux qui ont été touchés par le chômage partiel, tous ceux qui ont des incertitudes quant à la pérennité de leur entreprise ou à comment ça va se passer dans leur entreprise, on va attendre un petit peu, on va faire encore rouler la voiture que l'on a, surtout qu'elle s'est quand même a priori pas beaucoup abîmée ces derniers mois. Donc ça peut attendre. Donc vous imaginez à quel point c'est compliqué aujourd'hui le secteur de l'automobile.
Et donc, ça s'annonce compliqué pour nos constructeurs?
Oui, au point que le gouvernement est en train, là, de plancher sur un plan d'aide pour le secteur. Le ministre de l'économie voit même en ce moment les professionnels. Hier matin, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute d'Europe 1 à 6h40, un gros équipementier français. Bah oui, avant, vous l'étiez un peu plus quand vous passiez juste après. Mais j'imagine que vous avez décalé un peu votre réveil. Alors, on avait un gros équipementier qui s'appelle Novares, qui est en tant que tel pas connu, mais qui est venu nous parler de ses difficultés, qui nous a expliqué pourquoi il se plaçait déjà là, aujourd'hui, en redressement judiciaire. Et ce n'est que le début. Parce que c'est là venir par exemple d'un groupe comme Renault, qui est réellement en jeu en ce moment. Vous en avez sûrement entendu
Genre
parler.
Renault peut faire faillite.
Renault pourrait potentiellement faire faillite, mais l'État a décidé de lui octroyer un prêt. 5 milliards
C'est
d'euros
énorme.
De prêt pour sauver Renault. Et Renault va devoir se réinventer. Et aujourd'hui, quand vous regardez les capacités de Renault, les usines sont tout simplement surdimensionnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, c'est sûr et certain, il va y avoir un plan de réduction des effectifs. Alors, peut-être un plan de départ volontaire, mais un plan de réduction des effectifs, sûrement des fermetures d'usines. Du côté de Bercy, on me disait récemment, ce serait politiquement facile de conditionner notre prêt à zéro licenciement, mais ce serait économiquement irresponsable. La phrase, je trouvais, est assez forte. Et Renault ne sera pas la seule victime.
Et le seul avantage qu'on peut voir dans tout ça, c'est que l'État, du coup, veut relocaliser.
Oui, alors ça, c'est Bruno Le Maire qui nous a sorti ça il y a quelques jours. Oh, elle est louable, cette idée. Puis elle est même belle. Et puis on a tous envie de croire ça. Mais je ne sais pas si vous avez entendu Louis Gallois, qui est l'un des patrons de PSA. Il a dit très bien, on relocalise, mais êtes-vous prêt à payer plus cher votre voiture?
Quand
on est déjà pas prêt à les acheter, c'est pas pour les payer plus cher.
Il va pas y avoir des aides, dans les aides que le gouvernement octroie à l'industrie automobile, il va pas y avoir des aides plutôt pour les consommateurs qui nous inciteraient à acheter une voiture.
Il va y avoir, ça va être un plan vraiment global pour aider déjà les constructeurs. Ils ne seront aidés que si, et ça c'est peut-être le seul avantage de cette crise, que s'ils accélèrent sur la transition écologique. Donc, voiture électrique, à Bercy on le dit, hein, pas question de donner 1 euro pour des modèles thermiques, donc il va y avoir une accélération forte. L'accélération
aussi sur la mobilité. De basculer sur
le secteur automobile, va, s'il s'en sort, va gagner des années sur l'électrique, sur la mobilité, sur la voiture partagée. Et si effectivement ils réfléchissent à des prix, mais là-dessus on sait que dans des moments où les gens n'ont pas envie d'acheter, on est plus sur de l'effet d'aubaine. Mais ça permet effectivement de soutenir les ventes.
Eh bien, merci Emmanuel Dutheil pour ce sujet fort intéressant, mais effectivement peu réjouissant.
Allez, 3 points.
Eva, pour finir sur une note plus gaie, un jeu de mots, un petit calembour.
Tu l'as vu ? Tête de cul.
Oui,
non,
merci quand même, Eva. Merci.
J'ai pas dit ça.
Europe 1.
Certains exégètes de cette émission, car oui, il y a des exégètes de cette émission, je vous expliquerai plus tard, Eva, ce que signifie le mot exégète. Certains exégètes donc affirment que
c'est
la séquence
dire, hein,
du quiz de Culture G, et qui opposait jadis Eva à l'invité, était le symbole ultime de mon incurable sadisme. C'est grotesque, puisque les gens qui nous connaissent hors micro savent parfaitement que j'aime profondément Eva, même si c'est vrai, ça ne se sent pas toujours à l'antenne, comme hier quand on écoutait les enregistrements inédits de Stevie Wonder.
Stevie Wonder, il fait les voix là.
Very superstitious. Le son, il est dingue, on entend vraiment l'articulation.
Oui, d'ailleurs, si vous pouviez vous taire, ça serait encore mieux.
Voilà.
Oui, peut-être que les exégètes avaient raison finalement. Mais Eva, qu'est-ce qu'un exégète ? C'est une question qui aurait pu vous faire très mal dans le quiz de Culture G que je vous propose de retrouver tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Alors que nous approchons du cap fatidique des 200 émissions, je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair. Avec ceux qui croient qu'Eva et moi, c'est le duo good cop, bad cop, la meuf sympa et le type odieux, je m'inscris en faux contre cette vision simpliste des choses. En effet, si moi je joue les méchants, Eva, elle, laisse parfois transparaître au détour d'une réflexion sa véritable nature. Et on est loin, mais alors très loin, de la gentillesse et de la bienveillance qu'on lui prête souvent.
Quand une famille de cochons trop mignons débarque sur nos écrans, Peppa Pig ou les aventures de Peppa, donc vous connaissez ?
Ah, je connais, et Mathieu Béliard, qui présente la matinale d'Europe 1, a une théorie très intéressante
sur... Oui, vous allez me la dire après.
D'accord. Voilà comment je me retrouve souvent, moi, pauvre madonna, qui veut simplement livrer une anecdote qui me touche personnellement. Et bien voilà comment je me retrouve à pleurer, seul, dans les couloirs d'Europe 1.
C'est
pour
ça.
Vous punir, Eva, de votre vilainie, la direction m'a autorisé à rediffuser un quiz de Culture G dans lequel vous êtes particulièrement planté. Et toc. Qui veut gagner un thermos Sonia Mabrouk ? Sonia Mabrouk, star de la matinale d'Europe 1, dont vous retrouvez l'interview politique à 8h15 le matin. Quiz thématisé, évidemment. Comme nous vous recevons, la grande Sophie, on a choisi de poser des questions sur tout ce qui est petit. Passion de l'esprit de contradiction qui nous anime. Chaque bonne réponse vaut un point. Qui repartira avec le thermo Sonia Mabrouk qui émet le jingle Europe 1 à chaque gorgée ? Bonne chance à vous deux. La grande Sophie, il va falloir le créer ce truc-là.
Oh oui.
La grande Sophie, qui est le plus petit ? Napoléon ou Demis Roussos ?
Napoléon ?
Et non, Demis Roussos, 1m67 pour Demis. Et oui, Anne Le Gall semble... Désolé si c'est votre idole, mais Napoléon faisait 1m69, ce qui était assez grand pour l'époque. Eva Rock,
oui.
La plus petite vigne du monde, ça c'est une question 20 pour vous, la plus petite vigne du monde apparaissant officiellement sur un cadastre appartient au Dalai Lama. Vrai ou faux ?
Voilà, aucune idée. Mais la plus petite...
C'est pas la question, ça, c'est vous me répondez, vrai ou faux ?
Non, j'y faux.
Vous dites faux.
Oui.
Eh bien, une fois de plus, vous avez tort, puisque c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais en plus, elle a été léguée par l'abbé Pierre. Située en Suisse, elle a été la propriété de l'acteur.
Bon,
non, ça, c'est pas bon.
Si, déraciné des ailes il y a 2 ans. Non, mais je vous assure.
Peut-être, mais vous ne marquez pas le point à contre-temps.
Non, mais
ça
bien
ne fonctionne
sûr,
pas.
Non, mais je comprends bien.
Elle a été, cette vigne, la propriété de l'acteur Jean-Louis Barrault. Elle fait 1,6 mètre carré. Ouais. Tous les ans, 1000 bouteilles sont produites, mélangées avec une autre cuvée. Le tout est vendu à des heures de charité.
La plus petite vigne, un pied de vigne.
Non, Eva, n'essayez pas de contester le règlement du jeu, ça ne fonctionne pas.
Bon.
Attention, vous répondez ensemble. Une question, 3 propositions. Tout le monde connaît l'empereur romain Caligula, mais ce n'est pas son vrai nom. Que signifiait Caligula ?
Vous n'avez pas 3 propositions,
ah oui,
là ?
C'est ça, faut exactement. Le dire. Mais en fait, j'étais en train de relire les questions pour voir si elles fonctionnaient. Oui. Que signifie Caligula ? 1. Petite frayeur. 2. Petite sandale. Ou 3. Petite coquine.
Comme on parle d'empereur, j'ai envie de dire petite sandale.
Réponse numéro 2, petite sandale. Caligula, selon vous, ça veut dire quoi, Eva?
J'aurais dit la première, la petite peur, c'est ça?
La petite frayeur.
La petite frayeur, ouais.
Comme quoi, vous avez quand même un esprit de déduction assez pourri, puisque vous avez faux. C'est
on a tout
le point. Non, pas du tout. Vous remportez le point à la grande Sophie. Caligula signifie la petite sandale. Quand il était enfant, il accompagnait son père, le général Germanicus, sur les champs de bataille. Il était habillé en petit soldat avec des petites sandales, d'où ce surnom.
J'ai tout de suite imaginé comme ça, moi, je le voyais.
Oui, voilà. Je sens que vous avez anticipé.
Les petites sandales.
Ouais. Eva Rock, oui. Mettre une petite cuillère dans le goulot d'une bouteille de champagne ouvert lui permet de garder plus longtemps sa pétillance, vrai ou faux?
Je vais me faire engueuler par Olivier Poul si je donne la mauvaise réponse.
Vin et spiritueux.
Et je crois que c'est faux, je crois que c'est une idée préconçue en fait.
C'est faux Eva, effectivement, c'est une idée qu'on a parfois. En 95, trois chercheurs des services techniques du comité interprofessionnel du vin de champagne ont réalisé tous les tests possibles. Ils se sont excusés de démontrer l'inefficacité de cette recette de grand-mère. Leur conclusion est sans appel, une fois débouchée, il vaut mieux finir la bouteille. C'est toujours
voilà,
votre préconisation
c'est ce que
de toute
j'allais
façon,
vous
Eva.
Dire, ça ne nous arrive jamais de mettre une petite cuillère.
Avec modération, on le rappelle. La grande Sophie, le fondateur de la célèbre marque de conserverie de poissons Petit Navire, est mort noyé. Vrai ou faux?
Pardon.
C'est pas drôle, hein.
C'est méchant. C'est terrible, c'est absolument pas drôle.
Bon, alors.
Néanmoins, il faut donner une réponse.
Ouais, ok. Allez, oui.
La grande Sophie remporte ce quiz, c'est vrai. Effectivement, créé en 1932 par Paul-Édouard Paulet à Douarnenez en Bretagne, il périt en mer. Pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 alors qu'il était prisonnier. C'était vraiment oui, effectivement, ce n'était pas drôle, mais
oui, c'était pas drôle,
ma foi,
pardon.
La question était intéressante. C'est donc la grande Sophie qui ne boira plus jamais comme avant la gourde isotherme Sonia Mabrouk. Bravo, allez pour vous. Fuselée élégante, le thermo Sonia Mabrouk vous accompagnera dans tous vos déplacements tout au long de la journée. Merci. Merci Europe 1.
Europe 1.
C'est un sondage édifiant qui vient de tomber. Avant le confinement, la phrase qu'on disait le plus à ses enfants était « Je t'aime mon choupinou » ou en fonction des familles « Je t'aime mon chatounet ». Après le confinement, la phrase qu'on dit le plus à ses enfants est
« Tu me complaires, j'en ai plein d'autres, ta tête de courge !»
Pour ne pas avoir à lui payer en plus du scooter et du reste 10 ans de psychanalyse, retenez ce genre de phrase et pour vous offrir un peu de répit, placez directement l'enfant ou l'ado devant un écran. Alors évidemment, comme il regarderait n'importe quoi, même la mire si ça existait encore, mieux vaut quand même choisir pour eux. Ça tombe bien, Eva leur a concocté un programme récréatif mais éducatif. Elle vous en parle juste après Mr. Matt, mon nom de scène, vous allez facilement reconnaître mon grain de voix, à moins que je sois désespérément optimiste sur Europe.
Désespérément optimiste, à contre-courant, contre l'avis des spécialistes, faiseurs de sale temps. Désespérément optimiste, pour ces foules de gens, pour le plus petit des lampistes, je me compte dedans. Désespérément optimiste, est-ce grave vraiment de croire que le bonheur existe ici et maintenant? Désespérément optimiste, à me faire enfermer. Désespérément optimiste, à trouver la clé. Dernier sur la liste, un vieux mohican, désespérément optimiste, rêveur d'océan. Si le sourire est parfois triste, regard tombant, je reste toujours optimiste, désespérément. Et le jour où à l'improviste, le ticket gagnant pour le paradis des artistes me tombera dessus, flanc. Désespérément optimiste, je me ferai enterrer. Désespérément optimiste, à ressusciter. We'll be right back.
désespérément optimiste. C'était Mister Matt sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
On parle beaucoup du déconfinement, mais personnellement, je n'oublie pas ceux d'entre vous qui ont des enfants qui n'ont pas pu reprendre l'école et qui donc continuent d'assurer la classe à domicile. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont aussi peu concentrés, indisciplinés et chiants que moi. Comme avec Alain Sirou, lorsqu'il tente de me donner un cours sur l'origine des trous noirs.
Je dirais qu'on est quand même extrêmement tranquille parce que même si c'est proche du système solaire, 1000 années-lumière, c'est quand même pas la porte à côté, il faut l'avouer.
Pardon, j'étais en train de recoller mon casque qui s'était détaché. Si vos gosses sont aussi peu attentifs que moi quand vous leur faites l'école à domicile, ouais. Cessez de vous fatiguer, mettez-les devant la télé. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, pas vrai, Eva ?
Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas vu la une de ce journal où c'était un enfant qui parlait, qui disait « Ah ben la maîtresse, elle explique mieux que les parents
». Bah oui, c'est un métier, en fait, hein, on le découvre.
Exactement.
Un peu.
Alors un programme pour les petits et une série pour les ados, voilà le menu du jour sur France.tv, vos pioupiou vont adorer Dimitri. Alors Dimitri, c'est un petit passereau qui est très mignon, très malin. Il vit en Afrique. Il est entouré de Titi, c'est la fourmi, Oko le zèbre ou encore Phil la suricate. Et puis il y a la grande Makeba, c'est celle qu'on respecte, qu'on écoute, c'est une girafe. Et Dimitri a entendu Makeba dire « Si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant ». Or, le petit Dimitri, il a constaté que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Makeba va lui expliquer pourquoi.
Dire que plusieurs fourmis peuvent soulever un éléphant, c'est une façon de parler. C'est un proverbe.
Un proverbe ?
Et ce proverbe veut dire que même si on est petit, comme toi par exemple, mais qu'on se met à plusieurs pour faire quelque chose, on y arrive.
Ah, j'ai compris !
Alors je suis fan de ce dessin animé. D'abord par la qualité de l'animation, c'est très beau, c'est signé d'une équipe franco-suisse. Et puis par la qualité du message aussi, vous venez de l'entendre en quelques phrases, votre enfant par exemple peut comprendre le sens du mot proverbe. Les épisodes sont centrés sur des valeurs d'entraide, de solidarité, d'altruisme. Ils mettent également à l'honneur les liens d'amitié. Et tout ça dans un décor de savane africaine avec ses animaux, ses baobabs. L'occasion pour vos enfants quand même de découvrir un ailleurs souvent inconnu et puis de vivre les aventures de Dimitri au rythme de la musique africaine. C'est une merveille de dessins animés, c'est à voir et à revoir sur France.tv.
De toute façon, la qualité était assurée par le fait qu'il s'agit d'une équipe franco-suisse,
voilà,
vous l'avez signalé.
J'espérais que vous alliez relever ce point.
Effectivement, ça ne pouvait être que bon. Vous nous aviez promis aussi une série pour ados, Eva.
Oui, c'est à voir sur Netflix, ça s'appelle Outer Banks. Alors c'est le nom du lieu où se déroule cette série. On est en Caroline du Nord, c'est un décor paradisiaque, hein. Chapelet d'îles magnifiques, mais dans les Outer Banks, on dit, il y a comme un proverbe aussi, où on dit soit on a deux maisons, soit on a deux jobs. Vous comprenez qu'il y a d'un côté les riches dans des baraques sublimes et de l'autre des pauvres qui tentent de survivre en travaillant notamment pour les riches. Et bien c'est le cas de John Bay. C'est un ado d'une quinzaine d'années dont le papa a disparu en mer 9 mois auparavant. Et avec ses amis, alors il a autour de lui Gigi qui est un surfeur, Pop l'intello et Chiara, une fille assez maligne et craquante. Et bon, il apprend à vivre comme un adulte, il adore surfer et puis prendre le bateau pour naviguer dans les marées. Et jusqu'au jour où, au lendemain d'une tempête, son embarcation va buter sur un bateau qui a coulé. John et sa bande décident d'aller explorer cette épave et le jeune homme y trouve un objet.
Alors là, bien joué les gars. On a trouvé une boussole.
Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vaut que dalle ce truc.
C'est à mon père ce truc.
Et oui, cette boussole, elle est à son père et va débuter alors une chasse au trésor parce que cette boussole pourrait bien emmener John et son trio sur les traces d'une autre épave, un navire qui a coulé au 19e siècle avec à son bord des tonnes d'or. C'est une très bonne série pour ados avec son cortège alors d'histoires d'amour, de découvertes de la sexualité, de fêtes alcoolisées, de drogue. Bon, ça c'est classique dans les séries pour ados, mais il y a deux dimensions supplémentaires que j'aime beaucoup. D'abord la chasse au trésor qui apporte le côté vraiment grande aventure à la série et puis cette dimension sociale dans l'opposition riche-pauvre. C'est parfois un tout petit peu caricatural, il y a quelques invraisemblances, mais les 8 épisodes sont extrêmement divertissants, c'est très 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 bien produit. Et alors je dois vous préciser une chose Mathieu, c'est que dans ce coin du monde, tous les garçons sont sublimes, portent souvent leur petite chemise hawaïenne ouverte sur des torses imberbes, et les filles vivent en maillot de bain et dévoilant pour le coup leur corps magnifique. Alors si avec ça vous n'allez pas voir à quoi ressemble cette série, moi j'y comprends plus rien. C'est Outer Banks et c'est sur Netflix.
Ça peut effectivement m'intéresser. Est-ce que c'est une équipe franco-suisse qui a réalisé cette série ?
Non, c'est américain, je suis désolée.
Alors il faudra aller vérifier la qualité car on ne sait pas. Il faudra juger sur pièce. Ouais. Merci beaucoup Eva pour ce conseil.
Europe 1.
Une première manche s'achève, mais restez avec nous. Le Gai Savoir continue sur Europe 1. Deux nouveaux journalistes vont nous rejoindre. Alors, toujours par téléphone, précaution sanitaire oblige. Mais ça devrait bien se passer. J'utilise le conditionnel car il est vrai qu'en ce moment, avec tous ces duplex téléphoniques, la fluidité n'est pas le point fort de l'émission, comme on a encore pu le constater hier quand soudain, au beau milieu de mon interview d'Elysée Moon, est-ce que ça fait du bien d'être sans lui ?
Je fais une interview. Merci.
Allô, Ellie ?
Allô ?
Ellie ?
Il y a le facteur qui vient de sonner et qui vient de m'apporter des trucs. Donc, en fait, je suis désolé, c'est très irrespectueux de ma part. J'ai entendu parler d'annonces, j'ai entendu des gens ricaner. Je me suis dit, tiens, ça doit être drôle.
À tout de suite, donc, avec deux nouveaux journalistes, en espérant que personne n'attende de Colissimo.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.